VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 27 mai 2016, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Tout d'abord, les titres.
En Côte d'Ivoire, arrestation du conducteur de l'un des véhicules utilisés par les djihadistes dans l'attentat de mars à Grand Bassam.
En Guinée-Bissau, la nomination de Bassirou Dia hier à la primature par le président José Vario Vaz a été aussitôt contestée par les militants du parti au pouvoir.
En France, le parquet national financier a demandé le renvoi en procès du fils du président équato-guinéen Théodorin Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis.
Des dizaines de prisonniers sont détenus au Soudan du Sud dans des conditions qui s'apparentent, selon Amnesty International, à de la torture.
Les dirigeants du G7 ont fait aujourd'hui de la croissance mondiale leur priorité urgente à l'issue d'un sommet de deux jours au Japon.
L'homme d'affaires Donald Trump a franchi un cap historique hier en atteignant la majorité de délégués nécessaires pour l'investiture automatique du Parti républicain à la présidentielle américaine de novembre. Ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
Bonjour à tous. Le conducteur de l'un des véhicules ayant servi lors de l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts le 13 mars à Grand Bassam en Côte d'Ivoire a été arrêté et est en train d'être interrogé selon un communiqué des sources sécuritaires ivoiriennes dont l'AFP a reçu copie jeudi. Aucun détail sur le lieu de son arrestation. Selon les premiers éléments recueillis, il ressort que ce véhicule a déjà été respectivement au Burkina Faso et au Mali, aux périodes auxquelles ces pays ont subi des attaques terroristes, a indiqué le communiqué.
Toujours en Côte d'Ivoire, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de Mme Simone Gbagbo, rendant ainsi définitive sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Éric Manirakiza.
C'est son avocat Maître Rodrigue Dadjé qui a annoncé hier ce rejet de la Cour suprême ivoirienne. Il a dénoncé une décision politique, estimant qu'il y avait assez d'arguments juridiques pour annuler la condamnation de sa cliente. Simone Gbagbo, incarcérée à Abidjan, a été condamnée le 10 mars 2015 à 20 ans de réclusion pour attentat à la sûreté de l'État. Elle était jugée avec 78 co-accusés pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois. La défense de l'ex-première dame ivoirienne s'était alors pourvue en cassation, critiquant une procédure irrégulière qui devait être frappée de nullité. La haute cour ivoirienne a finalement rejeté ce recours. Par ailleurs, Mme Simone Gbagbo comparaîtra à partir du 31 mai à Abidjan devant les assises pour crimes contre l'humanité.
En Guinée-Bissau, deux semaines après la dissolution du gouvernement, le président José Mario Vaz a nommé un nouveau premier ministre jeudi, Bassirou Dia. Cette décision a été aussitôt contestée dans la rue par des militants du parti au pouvoir dans ce pays en proie depuis 9 mois à une crise politique. Elle remonte à la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre, Domingo Simoes Pereira, mesure rejetée ouvertement par leur parti, le PAIGC, au pouvoir et dont M. Pereira est le chef.
En France, le parquet national financier a demandé le renvoi en procès du fils du président équato-guinéen Théodorin Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Si les juges d'instruction suivent l'avis du parquet et décident du renvoi, pour la première fois, un procès se tiendra en France et même en Europe d'un haut dignitaire d'un des pays au cœur de l'enquête dite des biens mal acquis. Se sont félicités dans un communiqué les associations Sherpa et Transparency International France qui avaient déposé plainte en 2007 et 2008 dans ce dossier. Théodorin Obiang a été mis en examen en mars 2014 par la justice française qui le soupçonne de s'être frauduleusement bâti un immense patrimoine en France. Celui-ci serait constitué notamment de voitures de luxe, d'un jet privé, d'un hôtel particulier à Paris, selon les instructions, des biens évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. Le fils du président équato-guinéen avait demandé l'annulation de sa mise en examen, estimant que son statut de vice-président, chargé de la défense et de la sécurité de l'État en Guinée équatoriale, lui conférait l'immunité. La Cour de cassation l'avait débouté en décembre, estimant que les faits qui lui sont imputés avaient été commis à des fins personnelles.
Des dizaines de prisonniers sont détenus au Soudan du Sud dans des conditions qui s'apparentent à de la torture, entassés dans des conteneurs en métal sous une chaleur brûlante, avec un minimum d'eau et de nourriture, a dénoncé aujourd'hui Amnesty International. Beaucoup de détenus, la plupart des civils, accusés de liens avec l'opposition ou avec des groupes rebelles, sont morts suite à ces traitements inhumains, selon l'ONG de défense des droits de l'homme. L'armée sud-soudanaise n'a pas souhaité répondre aux accusations, mais a déjà nié les rapports publiés l'année passée, dénonçant la détention dans des conteneurs à bateaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants du G7, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Canada et Japon, ont fait vendredi de la croissance mondiale leur priorité urgente à l'issue d'un sommet de 2 jours au Japon. Les précisions de Michel Joseph.
Dans leur déclaration finale, les chefs d'État ou de gouvernement des 7 pays industrialisés ont déclaré que la croissance mondiale reste modérée et en dessous de son potentiel, tandis que persistent les risques d'une croissance faible. Ils ont ainsi réitéré leur engagement à utiliser tous les outils de politique économique, monétaire, budgétaire et structurelle, individuellement et collectivement. Les leaders du G7 ont également averti qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à l'issue du référendum prévu le 23 juin serait un risque grave pour la croissance mondiale. Une telle sortie, ont-ils estimé, renverserait la tendance à une expansion du commerce mondial et de l'investissement, ainsi que des emplois qu'il crée. Par ailleurs, le G7 s'est dit préoccupé par l'aggravation des tensions maritimes en mer de Chine méridionale et orientale. Et ses dirigeants ont souligné l'importance fondamentale d'une gestion et d'un règlement pacifique des différends. Leur communiqué n'a cité aucun pays en particulier, mais les tensions se sont aggravées ces derniers temps en mer de Chine méridionale, revendiquée en quasi-totalité par Pékin, qui a construit des îles artificielles aux grandes dames de pays comme le Vietnam ou les Philippines. Pékin et Tokyo se disputent âprement la souveraineté de territoires inhabités en mer de Chine orientale.
Les forces soutenues par les États-Unis en Irak et en Syrie ont avancé jeudi dans leur offensive contre le groupe djihadiste État islamique. Les analystes prévenant toutefois que la bataille pourrait être longue. Au plan diplomatique, l'émissaire de l'ONU en Syrie a indiqué jeudi au Conseil de sécurité qu'il n'envisageait pas de nouveau pourparlers de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition armée avant 2 ou 3 semaines.
Ici aux États-Unis, l'homme d'affaires Donald Trump a franchi un cap historique hier en atteignant la majorité de délégués nécessaires pour l'investiture automatique du Parti républicain à la présidentielle de novembre. Chez Ruben Dorcil.
Donald Trump a passé la barre. C'est lui-même qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Bismarck, dans le Dakota du Nord. Il a dépassé les 1237 délégués, une majorité qu'il était de toute façon assuré d'atteindre le 7 juin pendant les primaires républicaines dans plusieurs États, dont la Californie. Ce quasi-néophyte de la politique, âgé de 69 ans, a surmonté toute la concurrence d'au moins 16 autres candidats qui ont fini par jeter l'éponge. Sans concurrence, depuis 3 semaines, il était de facto devenu le candidat officieux du parti pour la Maison-Blanche. Maintenant, M. Trump concentre sa puissance de feu sur Hillary Clinton, qu'il qualifie inlassablement de malhonnête. Mme Clinton ne devrait parvenir à l'investiture que le 7 juin, lors des scrutins démocrates de Californie et de 5 autres États. Bernie Sanders ne lâche pas et a même demandé un nouveau décompte dans le Kentucky, où Hillary Clinton l'avait emporté de justesse. Mais le résultat a été confirmé hier par les autorités locales.
Le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, s'est vu refuser jeudi sa demande d'accréditation comme organisation non gouvernementale auprès des Nations Unies. 10 pays membres du comité des ONG de l'ONU se sont opposés à cette demande, dont la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Burundi et le Soudan lors du vote. Le statut spécial d'ONG permet d'accéder plus facilement aux locaux de l'ONU et est censé donner voix au chapitre à la société civile.
L'identification chez une femme d'une superbactérie résistante aux antimicrobiens pour la première fois aux États-Unis renforce les inquiétudes concernant la perte d'efficacité des antibiotiques, a jugé jeudi un haut responsable sanitaire américain. On rappelle qu'un mauvais usage des antibiotiques est la principale cause du développement de la résistance microbienne qui touche 2 millions de personnes aux États-Unis et fait 23 000 morts par an. Pour plus de détails, consultez sur voafrique.com l'article USA, une super bactérie ravive les craintes de résistance microbienne.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique.
Et maintenant, place à la minute économique, l'actualité économique sur le continent avec John Lindon.
L'ONG Greenpeace a dénoncé hier la vente sur les marchés internationaux de bois volé dans les forêts camerounaises, mettant en cause la compagnie de commerce et de transport, le principal exportateur de grumes de bois du Cameroun. Dans un communiqué, l'ONG appelle les pays de l'Union européenne à considérer comme étant à haut risque le bois provenant du Cameroun. Comment se porte le secteur des TIC et quels sont les problèmes auxquels font face les start-up africaines? Loaï Jeffer, fondateur de Emploitique en Algérie.
C'est un secteur qui est très très porteur, hein. Donc je pense comme partout au monde, les ingénieurs en nouvelles technologies, développeurs, architectes réseaux, n'ont pas de mal à trouver un emploi. Donc je dirais que sur ce segment-là, il y a plutôt une tension, ce sont les entreprises qui ont du mal à recruter. Après, les problèmes que nous vivons dans notre marché, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes inhérents aux startups en général partout dans le monde. C'est-à-dire que des besoins de financement et puis des besoins de recrutement très importants parce qu'on recrute beaucoup et vite.
La grève à la grande mine d'or de Tasiast en Mauritanie, exploitée par la société canadienne Kinross, se poursuivait hier pour le troisième jour consécutif. Selon la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, la situation est au point mort. Aucune négociation, aucun contact n'a encore été engagé.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
En football, le Zamalek change d'avis.
L'un des clubs phares du football égyptien, le Zamalek, qui a finalement indiqué hier qu'il participerait bien au championnat d'Égypte après avoir annoncé mercredi qu'il s'en retirait pour protester contre l'arbitrage. Le Zamalek a ainsi joué hier soir contre EMPP, un autre club du Caire. C'est ce qu'avait annoncé son président Mortada Mansour sur le site internet de l'équipe, précisant toutefois qu'il réclamait toujours le remplacement du président du comité d'arbitrage. Pour la petite histoire, le Zamalek l'a emporté 1-0. Idrissa, on sait que c'est la deuxième fois que le champion en titre annonce son retrait du championnat égyptien cette saison. En décembre dernier, il l'avait déjà fait, toujours pour protester contre l'arbitrage.
Loi antidopage, les Kenyans rectifient le tir pour aller au JO de Rio.
Oui, les députés ont adopté une révision de la nouvelle loi antidopage afin de se plier aux exigences de l'Agence mondiale antidopage et corriger le faux pas susceptible de remettre en cause la présence de ce géant de l'athlétisme aux Jeux olympiques de Rio. On rappelle que ce sera du 5 au 21 août prochain. L'AMA avait estimé le 12 mai que la nouvelle loi antidopage kényane ne correspondait pas à ses attentes. Elle avait déclaré le pays non conforme avec sa réglementation antidopage.
Roland Garros, Djokovic qualifié pour le troisième tour.
Le numéro 1 mondial a signé hier une 50e victoire à Roland Garros en battant, sans vraiment convaincre, le Belge Steve Darcy, 161e joueur mondial. Le score 7-5, 6-3, 6-4. Djokovic qui affrontera le Britannique Aljaz Bedem, 66e joueur mondial, pour une place en 8e de finale. Allez Drissa, on parle avec vous de NBA, le championnat de basket nord-américain, la finale de la conférence Ouest. La question est simple, l'équipe de Golden State, championne en titre, est-elle toujours dans la course?
Le champion NBA en titre, Golden State, a réduit le score à 3 victoires à 2, en faveur d'Oklahoma City dans la finale de la conférence Ouest en remportant le match numéro 5, 120 à 111. Jeudi à Oakland, les Warriors doivent maintenant s'imposer à Oklahoma City samedi pour empêcher le Thunder d'empocher son billet pour la finale NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Cameroun connaît ces jours-ci une pénurie de sucre à l'heure où l'État tente de combattre les importations frauduleuses de ce produit pour protéger et promouvoir l'industrie locale. Mais comme le rapporte notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, certains s'interrogent sur l'efficacité des mesures draconiennes du gouvernement. Son reportage est repris ici par Jacques Aristide.
Les clients du restaurant Koum Janet, ici à Yaoundé, auront bien de la chance. Ils arrivent à avoir quelques cuillerées de sucre dans leur tasse de café. Et pour cause.
For several weeks now, I've been going around looking for sugar. It's scarce in town.
Depuis plusieurs semaines, je fais le tour de la ville à la recherche de sucre, devenu presque introuvable. Quand je vous en trouvais, le prix est élevé. Il nous coûtait normalement 700 francs CFA, mais maintenant, un sachet de sucre peut valoir jusqu'à 1000 francs CFA.
Le Cameroun produit moins de 120 000 tonnes de sucre par an, alors que la demande est de 200 000 tonnes. Les producteurs camerounais exportent une partie de leur sucre illégalement vers les pays voisins, une pratique contre laquelle le gouvernement est en train de sévir. Les autorités ont également lancé une opération coup de poing contre l'entrée massive du sucre de contrebande en provenance de l'Union européenne. Valentin Barga Bihina est directeur du commerce intérieur au ministère camerounais du commerce.
Ils sont d'origine douteuse. Et quand on dit origine douteuse, ça peut vous laisser voir tout le champ des dangers que le consommateur court en les consommant. Vous savez par quelle manipulation il est passé pour arriver à votre table ?
Il ajoute que si rien n'est fait, les 8000 emplois au sein de l'unique compagnie sucrière du Cameroun pourraient être menacés. Ces mesures drastiques ne sont pas nouvelles. L'an dernier, pour protéger 50 000 emplois, le gouvernement a interdit l'importation de l'huile de cuisson de l'Indonésie et de la Malaisie après la fermeture de 4 entreprises locales. Pour les détracteurs toutefois, cette interdiction n'a fait qu'encourager la contrebande, d'autant que les produits fabriqués localement, disent-ils, sont souvent plus chers. L'économiste Ariel Nitedem de l'université de Yaoundé est d'avis que le protectionnisme peut avoir l'effet contraire.
It is economically unwise for a country to close its market.
Il n'est pas économiquement judicieux pour un pays de fermer son marché lorsque sa production ne parvient pas à subvenir aux besoins de la population. Si d'autres pays réagissent de la même façon, comment le Cameroun s'approvisionnera en marchandises qu'il ne produit pas ? À qui va-t-il vendre ses produits ? Je pense que ces mesures protectionnistes sont plus nuisibles.
Le Cameroun n'est pas le seul pays à s'être lancé dans ce protectionnisme. Les pays d'Afrique de l'Est, par exemple, ont envisagé une interdiction d'importation de vêtements et véhicules usagés afin de stimuler ces secteurs localement. Pour les partisans de ces mesures, il faut voir la chose comme un sacrifice à court terme, mais comme un bénéfice à long terme.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La route tue énormément au Burkina Faso, nous dit notre correspondant sur place. Et le dernier accident en date qui a fait 24 morts et plusieurs dizaines de blessés a poussé le gouvernement burkinabé à se pencher sur la question en prenant des mesures. Quelles sont ces mesures et qu'en pensent les Burkinabés ? De Ouagadougou, reportage de Zoumana Wanogo.
Suite à l'accident de route qui a fait au moins 24 morts et une trentaine de blessés graves, le gouvernement burkinabé a pris des mesures pour réduire au maximum les risques d'accidents mortels sur les routes du Faso. Le ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré, nous livre les différentes mesures prises.
Tout chauffeur qui va être pris en flagrant délit d'excès de vitesse, on va arrêter ce chauffeur-là, lui retirer son permis, faire la procédure et il va être frappé d'indignité dans la conduite des véhicules du genre. L'autre mesure, c'est que pour éviter effectivement que certains ne restent sourds par rapport à la limitation de la vitesse, ils ont un mois pour plomber la vitesse. Transport mixte, c'est terminé. Tout véhicule à partir d'aujourd'hui qui roule sans avoir des éléments nécessaires à bord pour qu'en cas de panne, on puisse faire une signalisation correcte. Si on vous arrête, vous êtes garé. La sanction tombe. Il nous est revenu qu'il y a des sociétés qui priment leurs chauffeurs, qui, par exemple, entre Ouaga et Bobo, font 2 ou 3 fois dans la journée. Là également, il ne sera plus toléré qu'on dépasse les heures conventionnelles qui ont été arrêtées et connues des sociétés de transport. Maintenant, tout le tort n'incombe pas aux sociétés de transport. Il y a la défaillance au niveau des contrôles aussi, la complaisance au niveau de certains agents. S'il y a des défaillances, les gens seront sanctionnés.
Nous avons demandé à des Burkinabés ce qu'ils pensent de ces mesures suivantes.
Ça a eu des engrais. Quand on a dit que les cars seront plombés, qu'on vérifie effectivement à partir même de la sortie des gars, est-ce que les cars vraiment sont plombés pour éviter la corruption.
C'est un domaine assez sensible, les transports au Burkina. Parce que c'est, j'ai pas envie de dire que c'est un secteur informel, mais c'est tout quoi. Eux là, c'est pas une histoire de sécurité, non, c'est le guet. Donc quand on se lève péremptoirement, on crie, le transport mixte, c'est terminé. Mais attendez là, c'est trop facile.
Ifizou Tiamde, est-ce que le gouvernement sera très exigeant sur lui-même pour pouvoir appliquer ces mesures? C'est surtout ça qui nous inquiète.
Une des mesures concerne le plombage des véhicules. Et voici ce que nous a confié Aboubacar Traoré. Il est chauffeur de gros porteurs.
On dit qu'on va plomber un véhicule qui est déjà en circulation. Techniquement, ça va être difficile qu'un véhicule qui est déjà en circulation, qu'on vient plomber. On va plomber comment? Parce que c'est sur l'accélérateur qu'on va plomber. Et si on fait ça de façon artisanale, le chauffeur, s'il veut, il peut le déplomber. Moi, je pense.
Zoumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Vente illégale de bois du Sénégal vers la Gambie voisine. La dernière grande zone boisée du Sénégal, la forêt de Casamance, subit une forte déforestation et pourrait être totalement détruite si le trafic de bois ne s'arrête pas. Du bois exploité par la Gambie à destination de la Chine. Mélisse Hegel a joint Haïdar El-Ali, secrétaire général du Parti des écologistes du Sénégal.
Cela fait plusieurs mois que nous sommes dans le Medina Yorofula, qui est un département au sud du Sénégal, en Casamance, et nous avons constaté un pillage systématique des ressources forestières, essentiellement du bois de veine. Depuis 2010, on a constaté que des centaines de milliers d'hectares qui quittent nos forêts casamanceaises et qui transitent par la Gambie pour aller en Chine. Ce sont des trafiquants à la fois gambiens et sénégalais qui livrent ce bois aux Chinois. Ce fléau est en train d'atteindre un niveau extrêmement inquiétant parce que maintenant, c'est tout le monde qui s'adonne à cela et malheureusement pour nous, l'État sénégalais ne met pas les moyens pour surveiller cette partie du Sénégal.
Quelles sont les conséquences pour l'environnement?
D'abord, il faut savoir que la forêt joue un rôle extrêmement important dans l'écosystème pour l'agriculture parce que toute la matière organique, le compostage, la pluie, tout cela est le résultat de la forêt. Ensuite, l'élevage va avoir besoin du tapis herbacé pour se nourrir. Et enfin, la cueillette des fruits sauvages est essentielle pour nos économies des mamans qui vivent dans les villages. Avec toute cette histoire de réchauffement climatique, avec toutes ces préoccupations de disparition de la ressource, c'est notre économie qui s'en va. Et cela est extrêmement inquiétant parce que cela va causer à terme des réfugiés climatiques, des gens qui n'auront plus accès à cette ressource et qui vont prendre les pirogues pour aller grossir le vent de l'Atlantique.
Pourquoi est-ce que personne n'a jamais agi?
En Gambie, l'exploitation du bois de veine est soumise à autorisation. Et c'est une société gambienne qui s'appelle Westwood qui délivre cette autorisation et qui touche 3000 dollars par conteneur exporté. Donc comme cela rapporte de l'argent à la fois aux exploitants gambiens et aux exploitants sénégalais, donc tout le monde s'y est mis. Les Sénégalais disent, puisque les Gambiens pillent nos ressources sans être inquiétés, mais nous allons aussi nous profiter de cette manne. Ensuite, le département de Medina Yorofula est un grand département où il n'y a pas de présence de l'État. Même nous, les défenseurs de l'environnement, quand on va dans ces secteurs, on est inquiétés, on est menacés, on est poursuivis, on est chassés. Il y a des agents de proximité qui ont été tailladés à coups de machette par des exploitants. Il y a un chef de village qui a été tué, donc les gens ont peur, ils n'osent plus défendre l'environnement. C'est extrêmement grave ce qui se passe.
Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour lutter contre cette déforestation? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire?
Moi, je pense qu'il faut une volonté politique extrêmement forte de la part du pouvoir politique. Il faut donner les moyens à ceux qui ont envie de protéger cette forêt. Il faut une unité mobile à l'intérieur de ce département, qui sillonne ce département et qui arrête les trafiquants. Il faut accompagner cela par une loi qui pénalise cette activité frauduleuse et qui emprisonne les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les défenseurs de l'environnement qui sont en prison. Hein. C'est 140 milliards de francs depuis 2010 qui sont exportés depuis l'Afrique de l'Ouest vers la Chine.
C'était Haïdar El-Ali, secrétaire général du Parti des écologistes du Sénégal.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Solar Impulse 2, l'avion volant exclusivement à l'énergie solaire, poursuit son tour du monde par une traversée des États-Unis. Ses ailes, plus grandes que celles d'un Boeing 747, sont recouvertes de cellules photovoltaïques qui actionnent les hélices en même temps qu'elles rechargent les batteries pour les vols de nuit. Pourquoi avoir opté pour l'énergie solaire? Timothée Donangmaï a posé la question à l'un des deux pilotes de l'avion, le Suisse Bertrand Piccard.
On présente beaucoup trop souvent les énergies renouvelables comme quelque chose d'anecdotique, voire même de menaçant pour notre confort et notre mobilité. Et moi, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'au contraire, aujourd'hui, les énergies renouvelables peuvent permettre des choses impossibles, incroyables, comme de voler jour et nuit avec un avion sans aucun carburant.
Alors, une description du Solar Impulse 2, qu'est-ce que c'est comme avion ?
Alors, vous vous imaginez un avion qui a l'envergure d'un jumbo jet, d'un Boeing 747, c'est 72 mètres d'envergure, mais le poids d'une voiture familiale. Il est construit en fibre de carbone, de manière extrêmement légère. Il a quatre moteurs électriques et des cellules solaires sur les ailes et sur le fuselage et sur la queue. Ce qui veut dire que pendant la journée, le soleil suffit à faire tourner les quatre moteurs et charger les batteries pendant le vol. Et puis pendant la nuit, on utilise les batteries pour atteindre le lever de soleil suivant. Et le lendemain matin, le soleil revient et on recommence un nouveau cycle d'un jour et une nuit. Et on arrive comme ça à voler, entre guillemets, perpétuellement. Quand André a volé du Japon jusqu'à Hawaï, il est resté 5 jours et 5 nuits en vol. Moi, depuis Hawaï jusqu'à San Francisco, j'ai volé 3 jours. Donc c'est extraordinaire. Vous vous dites que vous pouvez faire les plus longs vols de l'histoire de l'aviation sans aucun carburant quelconque. C'est incroyable. En fait, on se croit dans le futur avec la science-fiction alors qu'on est dans le présent. C'est ça qui me plaît le plus quand je vole cet avion.
Ce sont des vols en solitaire. Qu'est-ce que cela représente au plan psychologique, au plan physique?
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité de mettre un deuxième siège dans le cockpit qui devrait être plus grand avec plus d'équipement parce que toute la charge utile est utilisée pour les batteries. Donc c'est passionnant. Hein. Quand j'ai fait le tour du monde en ballon, nous étions deux. Et c'était un vol de 20 jours sans escale. Mais 20 jours à deux, on se relaie, on peut se reposer plus facilement. Là, plusieurs jours, tout seul dans un cockpit d'avion minuscule, c'est vrai que ça nous oblige à développer des nouvelles techniques, autant pour se reposer que pour rester réveillé. André utilise du yoga. Moi, j'utilise de l'auto-hypnose et ça nous permet vraiment de bien gérer nos vols. Autant lui que moi, nous sommes arrivés en très bonne forme après les vols les plus longs.
Eh bien, c'était Haïdar El Ali, secrétaire général du Parti des écologistes du Sénégal.
Salut les amis, ici votre gars Roger Montou de VOA Afrique. Retrouvez-moi la semaine prochaine en direct de Bamako au Mali. Les amis, RM Show sera diffusé en direct. Je serai là en personne avec les amis, les frères et sœurs maliens la semaine prochaine à Bamako. Appelez-nous au 001 202 619 3140 pour participer à l'émission et envoyez-nous vos SMS ou WhatsApp Viber au 001 703 350 37-31. Nous serons aussi en direct sur notre page Facebook VOA Afrique. RM Show en direct de Bamako, Mali. La semaine prochaine, ça va être chaud. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et merci à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.